Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le matin des musiciens du mercredi. Et bonjour à vous public qui m'avez rejoint ici au studio 105 de la Maison de Radio France à Paris. N'oubliez pas, demain 7 novembre, 3 émissions, c'est un grand privilège que nous avons de le recevoir sur l'ensemble des sessions d'enregistrement de notre journée marathon de demain. Demain 7 novembre, nous recevons Cédric Péchia, le magnifique pianiste suisse qui vit à Berlin, avec qui je viens de jouer d'ailleurs à Toulouse, un programme Schubert, et on le retrouvera demain. Alors, à 15h, c'est l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, qui vient de sortir un disque prodigieux d'inventivité, de beauté, enfin c'est tout à fait bouleversant ce qu'il en fait, cet art de la fugue. Et puis les deux séances suivantes, c'est Schubert, et puis alors je m'acoquine avec lui, deux grands chefs-d'œuvre pour piano à quatre mains de Schubert, la fantaisie en fa mineur et le Lebensturm en la mineur. Pour l'heure, je vous propose de feuilleter quelques très jolies pages des Nocturnes de Fauré, et les deux premiers notamment. Deux pages de jeunesse de Fauré, mais alors déjà, quelle inspiration, quel style, quel beau piano. Je vous propose d'entendre une grande interprète de Gabriel Fauré, qui a enregistré à la fin de sa vie, et d'une manière très très inspirée, le premier nocturne de l'opus 33 en mi bémol mineur. Il y a beaucoup de bémols, beaucoup de touches noires dans ce nocturne. On va l'entendre avec cette sonorité argentine qui l'a caractérisé, et puis ce feu de Dieu, c'est Yvonne Lefébure.
Thank you.
le premier nocturne de Gabriel Fauré qui date de 1875. Fauré avait 30 ans lorsqu'il l'écrit et qui était interprété ici par Yvonne Lefébure. Yvonne Lefébure, notamment disciple d'Alfred Cortot, qui a enseigné quelques années au Conservatoire de Paris, qui était une nature tout à fait particulière, un caractère bien trempé et une femme extrêmement inspirée au piano. On se souvient peut-être de ces enregistrements magnifiques qu'elle a réalisés de certaines sonates de Beethoven, notamment les dernières, l'opus 109, l'opus 110, de ce fameux concerto en ré mineur de Mozart qu'elle joue au Festival de Salzbourg, accompagné par Wilhelm Furtwängler, et puis de la musique française qu'elle a servie, Debussy, mais surtout Gabriel Fauré, Paul Dukas. Et moi, j'aime ce Fauré sanguin, ce Fauré inspiré, romantique, dans la veine de Chopin, mais pas seulement, et un Fauré moins marmoréen que ce qu'on en fait aujourd'hui. J'étais très surpris en préparant cette émission d'écouter de grands pianistes d'aujourd'hui qui ont enregistré cette œuvre d'une manière très, très contenue, très réservée, sans éclat. C'est magnifique, c'est toujours très beau, bien entendu, du beau piano, mais c'est une œuvre composée par un quasi jeune homme, ou en tout cas par un jeune homme qui est devenu adulte et qui publie ses premières œuvres pour piano. Il n'y a pas grand-chose de publié au piano par Fauré avant 1875. Il fait ses premières armes, au fond. Et même si ce début a quelque chose de profondément nocturne, de profondément mélancolique, ce n'est tout de même pas une marche funèbre. Ce n'est pas un convoi funèbre avec le pathos qu'on peut imaginer sur une image de la sorte. Je voudrais vous lire ce qu'à propos du premier nocturne, Vladimir Yankelevitch a écrit dans ce très beau livre consacré à Fauré, Fauré et l'inexprimable. Le nocturne en mi bémol mineur commence par une rêveuse et captivante méditation. Méditation. On n'est pas du tout dans la marche funèbre. Ce chant si pur, si mélancolique, est comme l'effusion d'un cœur plein de nuit. Des altérations voluptueusement mélancoliques se résolvent à la fin du prologue dans le ton principal de mi bémol, créant une atmosphère harmonique et sonore plus proche de Tchaïkovski que de Chopin. La persistance de la pédale de tonique, c'est-à-dire la pédale de mi bémol mineur, crée dans l'âme je ne sais quel mélange de langueur et de nostalgie infinie. Un second motif sombre et orageux s'annonce alors dans les régions graves du clavier. Après deux mesures, il passe à la main gauche et devient, quoique très expressif, motif d'accompagnement et en quelque sorte marche funèbre. La respiration haletante du second sextolet de double croche prête à chaque mesure une sourde inquiétude. Une douce et candide mélodie en sol majeur, délivrée de l'oppression des basses, flotte ensuite dans l'azur, la main gauche jouant au-dessus de la main droite. Le poids des deux mains sur les touches est subtilement dosé en vue de la sonorité que Fauré désire obtenir. On va y revenir sur cette explication. Et à la réexposition, conclut Yankelevitch, la noble Doumka du début est rendue plus fluide, plus lunaire, plus évasive encore par les appoggiatures et les notes de passage. Les quarts de soupir et le chromatisme nocturne en estompent le dessin. La conclusion apaisée rejoint ainsi le prélude et semble se rappeler les paroles de la belle chanson du pêcheur opus 4 « Sur moi, la nuit immense plane comme un linceul ». C'est un très beau texte, je trouve, sur ce nocturne, qui nous éloigne d'un début granitique, massif, quasiment brahmsien dans l'expression. Je voudrais, avant de poursuivre plus loin, vous rappeler que Yvonne Lefébure a joué quand elle était enfant pour Gabriel Fauré, que Fauré lui a dédicacé une photo de lui avec une petite mention de vœux pour son avenir, elle qui était si musicienne. Eh bien, je voudrais qu'on l'entende, le vieux Fauré, je crois que c'est en 1910, C'est un rouleau, donc avec toutes les réserves d'usage par rapport à ce qu'est l'enregistrement d'un rouleau, l'équilibre des deux mains. Mais en tout cas, au niveau du tempo, au niveau de cette rectitude de style qu'adopte toujours Gabriel Fauré quand il joue ses propres œuvres, on est très proche de la vérité. C'est une œuvre tardive, écrite finalement à une époque pas si éloignée de l'époque où la petite Yvonne Lefébure a rencontré le vieux maître. C'est le prélude en sol mineur, opus 105. Écoutez. C'est un prélude en sol mineur de la période tardive de Fauré que nous venons d'entendre, interprété par le compositeur lui-même en 1910 sur un rouleau. Yvonne Lefébure raconte « Mon plus émouvant souvenir de Fauré, c'est ma dernière visite rue des Vignes, peu de temps avant sa mort, où toujours accueillant et d'une exquise simplicité, il reçut l'ex-petite beethovenienne, laquelle était devenue, dès ses débuts de pianiste, non moins fauréenne. » Son aspect m'avait fortement impressionné au temps de mon enfance, par son expressive beauté, son regard sombre, ardent et doux. Je le retrouvais si frêle, anxieux, ravagé par la souffrance, sans doute morale autant que physique, poignante, révélation du grand âge pour un être encore inconscient du bienfait de la jeunesse. Très ému par ce revoir, je lui jouais « T'es mes variations ». Il l'avait déjà entendu, mais cette fois, c'était à la veille de mon premier récital à Paris. Il m'entendit aussi dans des œuvres de musique de chambre récemment parues, la deuxième sonate pour piano et violoncelle, le trio, le deuxième quintette que j'aimais à la passion. Toujours aussi attentif que naguère, assis tout près du piano, regardant mes mains. Ses remarques, particulièrement pour les tempi, à son gré les mouvements lents, y compris le thème des variations, étaient toujours trop lents. Les remarques donc étaient précises, malgré la cruelle infirmité qui l'empêchait d'entendre les sons à leur hauteur exacte. grand souvenir, si présent à ma mémoire, ainsi que tous les détails de cette entrevue ultime, inoubliable. Elle a dit une chose très très importante, Yvonne Lefébure, ce sont les remarques de Fauré concernant les tempi de ses œuvres. Et c'est pour ça que je suis étonné qu'on ait oublié à quel point, quand lui joue, et on vient de s'en apercevoir avec le prélude, ça avance. C'est pas du tout poseur, c'est pas du tout massif comme piano, c'est un piano lyrique, ça chante, c'est franc. Moi, je pense beaucoup à Arthur Rubinstein, curieusement, quand j'entends le jeu de Gabriel Fauré. Il y a une franchise, c'est tonique. Il n'y a pas du tout de pesanteur, de gras inutile. Il y a du son, c'est charnu, c'est sanguin, mais voilà, il n'y a pas de graisse dans ce jeu. Et en cela, ça rend le jeu de Gabriel Fauré d'une élégance supérieure. Et donc, me semble-t-il, c'est à travers le jeu de Fauré qu'on peut essayer de créer une atmosphère, une couleur, et de donner du caractère à ce premier nocturne. Moi, je trouve personnellement, le tempo d'Yvonne Lefébure absolument parfait. C'est-à-dire que nous sommes dans une mesure à 3-4, avec des croches qui donnent, si j'ose dire, la mesure, qui donnent le débit. Les croches, elles sont donc 6 par mesure. 1, 2, 3, 1, 2, 3... C'est comme une petite harmonie, flûte au bois, clarinette, et on égrène. C'est pas tout à fait lié, il y a des points sous les accords, et puis une liaison qui réunit 6 accords par mesure. Et vous avez ce chant, qui pourrait être évidemment soit chanté vraiment par une chanteuse, soit imaginé un hautbois, une flûte ou un violon. Et alors on pourrait imaginer même une sonorité de quatuor tout à fait à l'aigu des tessitures de chaque instrument. Encore une fois, c'est ma marotte et j'en ai parlé il y a 2 semaines sur les préludes de Chopin. Encore une fois, quelle est l'intention? Est-ce que c'est l'accompagnement qui prime ou est-ce que c'est le chant qui doit sortir de cet accompagnement? L'accompagnement, il est très très régulier. Toute la première page, nous avons ces 6 croches. Curieusement, ça rappelle ce prélude de Chopin dont nous avons parlé il y a 2 semaines. C'est un peu plus rapide le prélude de Chopin si on le joue à la brève, c'est-à-dire avec 2 temps par mesure au lieu de 4. Là, nous sommes dans une mesure à 3 temps. Mais si on veut vraiment le décomposer et faire en sorte que le lento soit déterminé par l'accompagnement, alors effectivement, on va jouer, comme on dit en musique, à la croche, c'est-à-dire chaque accord pratiquement comme un temps. C'est-à-dire ce n'est plus 3 temps, mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est tout à fait possible et beaucoup d'interprètes jouent à ce tempo. Donc on entend. Thank you. c'est possible. C'est tout à fait possible. Ça peut fonctionner. Cela induit simplement qu'il faut timbrer, surtimbrer la main droite pour, si j'ose dire, coiffer sur le poteau la présence, l'omniprésence rythmique de chaque accord de l'accompagnement. Mais c'est possible. Fauré écrit toujours piano, piano sempre, et cantabile expressivo, c'est-à-dire chanté et expressif. Donc on peut, à ce tempo, au prix effectivement d'un surtimbrage du haut, parce que si on ne timbre pas, si on fait une couleur comme ça, un petit peu transparente, sans vraiment de timbre, alors on va avoir très vite quelque chose de dilué et surtout une présence massive pour le coup. Et alors ça, c'est tout à fait pénible. Et c'est contre cette musique. D'autant que Fauré va utiliser beaucoup dans ses mélodies à venir, dans sa musique de chambre, ce système, si je peux appeler ça ce système, ce procédé plus exactement, de croche avec un point et une liaison, c'est-à-dire l'idée toujours d'avancer. Et la manière, j'en reviens systématiquement à cela, la manière dont la graphie sur la partition exprime aussi le tempo voulu par Fauré. Il écrit lento, certes, mais chaque mesure est couverte par une liaison de trois temps en trois temps. C'est-à-dire que ce n'est pas six croches qu'on doit entendre, c'est presque chaque mesure l'une après l'autre, chaque mesure débouchant sur la suivante, qui débouche sur la suivante, et qui fait donc avancer la ligne mélodique. Et alors, du coup, les perspectives ne sont plus du tout les mêmes. Au lieu d'avoir une espèce de décor granitique, imposant, intimidant, majestueux, ce qui est encore une fois possible, eh bien, nous avons quelque chose qui se rapproche de mon goût, de mon point de vue. Ça n'est que mon point de vue, ça n'est pas la vérité. C'est mon point de vue qui se rapproche de l'essence mélodique fauréenne même, c'est-à-dire une mélodie humaine, une mélodie qui peut être absolument chantée, déclamée, si on s'en tient à une idée de déclamation, déclamée par un chanteur, c'est-à-dire avec des ressources physiques, naturelles, de respiration, de conduite du souffle, de conduite évidemment de la phrase, qui font que la ligne s'éclaire et l'architecture générale devient beaucoup plus évidente, beaucoup plus claire aux oreilles de l'auditeur. Et avec ce tempo, nous voici beaucoup plus à l'aise, du coup, pour aborder la partie suivante, qui est notée « un poco più mosso, ma non tanto », c'est-à-dire un peu plus de mouvement, un peu plus rapide, mais pas trop. Pas trop. Si on joue lent tout le début, si on donne à ce début un côté comme ça, très vertical, très sombre, très vieux, voilà, pénible. Il n'est pas vieux, Fauré, tout de même. Il a 30 ans. Alors, on se trouve bien embêté ici, parce que qu'est-ce qu'on fait? Si on garde le même tempo, pénible, c'est laborieux. Donc un peu plus, bah, ça ne va pas être beaucoup plus. Là encore, je ne prétends pas du tout avoir la vérité. Je pense que ce tempo peut fonctionner et des artistes habitent ce type de tempo. Je veux juste dire que nous sommes dans une mesure à trois temps où il est tout à fait clairement indiqué dans la première partie que le phrasé est construit mesure par mesure et non pas temps par temps et encore moins croche par croche. Et que du coup, quand on tourne la page et qu'on arrive sur cette partie légèrement plus rapide, encore que cette indication a été donnée entre parenthèses, là aussi, le côté circulaire de cette formule si on veut l'habiter, lui donner ce caractère tourmenté dont parle Yankelevitch, et surtout qu'il y a les basses. La fameuse marche funèbre dont parle Yankelevitch, elle est là, elle n'est pas au début. C'est une mélancolie comme si on s'approchait dans la première page, comme si on se rapprochait d'un événement beaucoup plus sombre, beaucoup plus funèbre, et qu'on se préparait psychologiquement, en pensée, à recevoir cette procession dramatique, cette montagne d'émotions qui va s'élever peu à peu. Et alors, évidemment, ce qui m'importe, c'est de faire sonner, parce qu'elles sont accentuées, les basses. Chacune est accentuée. Et cette petite formule en sextolet de double, elle est notée piano. Elle est non seulement notée piano, mais les trois dernières notes sont détachées. Et ce que j'en conclus, c'est que Fauré veut qu'on entende le bas de la main gauche, c'est-à-dire ses basses, comme des coups de timbale. Et que c'est comme une plainte, un râle émis par quelques violoncelles, mais pas beaucoup. Et non pas de renverser la vapeur comme on l'entend pratiquement 9 fois sur 10. Voilà ce qu'on entend. Je trouve que si on veut créer une couleur, elle viendra beaucoup plus par ce mi bémol et ce si bémol insistant et encore une fois accentué par Fauré. Et le chant peut alors s'élever. Elle est tellement étonnante. Sur un motif aussi fuyant, aussi mouvant, aussi legato, ductile que... Et puis il y a des syncopes à la main gauche. On entend toujours les tubas du malheur, là. Et... Je les mets en évidence, ouais. Beaucoup mis en évidence, mais ils sont accentués par Fauré. En vérité, il me semble que tout doit être vu à partir de la main gauche et de sa force motrice et de son intensité dramatique, de la couleur qu'elle permet de créer. Et surtout, on évite à ce passage ce côté tellement scolaire qu'on entend d'habitude. Gentillet, scolaire, appliqué, laborieux, c'est moche. Tout indique qu'il faut du mouvement. À part la verticalité des basses, tout est mouvement. Et puis les syncopes. Là, je les mets en évidence. Donc, je dirais que les piliers des timbales ne doivent absolument pas nous empêcher de phraser, d'essayer d'avancer. C'est un miracle, ce passage. Alors, pour les auditeurs, il faut leur expliquer ce que les spectateurs me voient faire en ce moment dans ce passage. C'est-à-dire que la disposition au piano est tout à fait normale jusque-là. La main droite, vous êtes en train de l'entendre, et tout à coup, la main gauche, qui était dans le grave, va passer sur la main droite et va dérouler cette ligne infinie comme un contrepoint, noté pianissimo. Notez legato, des longues phrases legato. Ça semble absolument infini, ce fil d'Ariane. Et sous cette ligne de croche égale, vous avez dolce piano. Avec la palpitation foréenne. La palpitation de la jeunesse, c'est un souvenir qui vient de ressurgir des limbes. On avait cette basse, c'est comme la Madeleine de Proust, vraiment. Hein. Tout à coup, une image apparaît, une image heureuse d'un souvenir. Et c'est un dialogue à deux voix. Yvonne Lefébure, justement, en parle comme une voix des anges. Ce dialogue avec la voix des anges, dans l'aigu du piano, et c'est le médium, une voix d'homme peut-être, qui a le chant. Et ce chant, avec cette palpitation, vous entendez cette petite syncope qui s'ajoute. Très très important qu'elle soit là, parce que c'est elle qui donne le frémissement de cette phrase, et son allant et son débit. On n'est pas dans la pose, là encore, rien de marmoréen, rien de sérieux. C'est pas sérieux, cette musique, au sens serioso, allemand. Non, pas du tout, pas du tout. Absolument merveilleux, ce passage. Et il faut justement lui donner ce côté méandreux, comme improvisé, comme au gré des choses, au gré des harmonies, au gré des petits accords qui viennent ponctuer, qui viennent harmoniser le chant et ce dialogue avec cette voix des anges dont nous parle Yvonne Lefébure. Et ça me fait penser cet usage constant que nous avons dans ce nocturne, mais comme dans bien d'autres. Vous savez, ces parties aiguës du piano que Fauré sait faire chanter comme personne et qu'on retrouve évidemment sous un autre aspect, avec un autre caractère ici. Ça me fait penser évidemment à ce qui va être une des réalisations les plus sublimes de Fauré, par l'utilisation de ces notes aiguës, du registre aigu et des sonorités qu'il arrive à greffer sur ce registre. C'est évidemment la pièce conclusive du Requiem in Paradisum. Écoutez. Thank you. Que les anges te conduisent au paradis, que les martyrs t'y accueillent et te guident jusqu'à la cité sainte de Jérusalem, que le cœur des anges te reçoive et qu'avec Lazare, jadis si pauvre, tu connaisses le repos éternel. C'est le In Paradisum, la pièce qui conclut le Requiem de Gabriel Fauré, qui a été créé à la toute fin du 19e, 1899-1900, Requiem opus 48, et nous l'écoutions ici, interprété par le BBC Philharmonic Orchestra, les chœurs du City of Birmingham Symphony, sous la direction de mon cher ami Yann-Pascal Tortelier. Je passe sur le développement de ce premier nocturne, quand la phrase atteint son apogée fortissimo, un lyrisme. Voilà, le Fauré sanguin, charnel et charnu. Il ne faut pas du tout jouer ça avec une petite technique de doigts. Il faut vraiment jouer ça comme de la grande musique lyrique. C'est comme ça qu'on célèbre Gabriel Fauré. Et alors, à la fin, il y a une espèce de cadence très virtuose. À ce retour du thème, mais cette fois avec un accompagnement tout à fait différent, réside, selon moi, la clé du tempo de ce nocturne. Parce que, là encore, si on le joue trop lent, on passe complètement à côté de cette espèce de toile d'araignée, cette dentelle de l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, le voilà, je vais le jouer lentement, d'une manière assez didactique, alors, on a l'impression de n'entendre que des notes répétées. Ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est écrit. Vous avez la main gauche qui joue. Et les notes que vous entendez, c'est le pouce qui les joue. Le bout du pouce, c'est là. C'est là. Et à contre-temps, vous entendez bien les basses. Je joue les deux parties maintenant tout à fait égales. Déjà, en soi, cet accompagnement, c'est une pure merveille, parce que vous avez l'harmonie, et puis vous avez flottant et à contre-temps, en syncope, vous avez le pouce qui joue, qui va accompagner, soutenir le chant. Et donc, on pourrait se contenter tout à fait de cet accompagnement, ce qui donnerait... Là, on trouvera ça déjà très beau. Mais il a une idée géniale, Fauré. Il fait doubler par le pouce de la main droite, cette fois. C'est-à-dire que la main droite, elle va jouer le chant avec les doigts supérieurs, le quatrième doigt, l'annulaire et l'auriculaire, ou le majeur. Et pendant qu'ils sont affairés au chant, ces doigts-là, vous avez le pouce qui très subtilement va jouer des doubles croches, c'est-à-dire que ce n'est même pas des notes importantes, des croches ou des notes tenues, c'est des notes juste ce qu'il faut avec ce qu'on appelle un quart de soupir, un petit silence entre chacune. Et ça va être un jeu de pouce, si j'ose dire, entre le pouce de la main gauche, qui est en syncope, et le pouce de la main droite, qui est sur les croches. Ce qui donne main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, etc. Et alors, si on rajoute juste la totalité de la main gauche, Donc la légèreté du pouce de la main droite répond à la syncope légère, juste suggérée de la main gauche. Alors, avec la main droite, et donc avec cette fois le chant, donc toute la partition, inutile de vous dire le plaisir tactile qu'on peut avoir à jouer un passage pareil. Parce que alors les mains sont juste l'une à côté de l'autre, se touchent, s'évitent, se frôlent, les pouces gauche et droite qui dialoguent de concert. Mais aussi légers l'un que l'autre, enfin chacun restant sur sa position délicate, ne cherchant pas du tout à passer sur l'autre, ni au niveau sonore, ni au niveau technique. Et donc le chant s'élève à ce moment-là sur, comme je vous ai dit, ce tissu arachnéen, enfin, cette chose totalement débarrassée des pesanteurs. Et en même temps, ce jeu des pouces fait la légèreté et donne l'allure, la fluidité, le côté mouvant, toujours réactif, hypersensible à l'harmonie de ce passage. Si vous jouez ça plus lent, mais tout est perdu, on est dans l'exercice. Ça devient une explication du procédé. Il ne faut pas expliquer le procédé, il faut juste qu'il soit là, mais pour servir la musique, ce côté nocturne, étoilé, lunaire, dont parle Yankelevitch. Et alors, la fin de ce nocturne, ce parlando, tout à coup, alors qu'on est retourné dans les abîmes, tout à coup, une voix s'élève, une prise de parole ultime. Mezzoforte. Cette fin de nocturne, elle n'est pas sans faire penser à la chanson du pêcheur qui est, je ne veux pas dire de la même époque, mais légèrement antérieure. Vous allez l'écouter, cette chanson du pêcheur, sur une poésie de Théophile Gautier.
Ma belle amie est morte, je pleurerai toujours. Sous la tombe l'emporte, mon ami, mes amours. Elles sont ma tendre, elles sont retournant. L'ange qui l'emmena ne voulut pas me prendre. Que mon sort est à me, à sans amour, sans amour, s'en aller. Comme dans la nature, tu me parais ton deuil. La colombe oubliée pleure et songe à l'absent. Mon âme pleure et sent qu'elle est dépareillée. Amour, sans amour, sans...
La chanson du pêcheur de Gabriel Fauré, opus 4, numéro 1. C'est une de ses toutes premières mélodies composées bien avant 1880. On est même au début des années 1870, je pense. Et c'est interprété par le baryton Håkon Aggegård et accompagné par Warren Jones. Je voudrais à présent vous jouer le deuxième nocturne en si majeur. Alors, il y a beaucoup de bémols et de dièses dans les premières œuvres de Fauré. Inspiration chopinienne s'il en est, parce que Chopin a écrit beaucoup de pièces où il y a beaucoup de dièses, la barcarolle, le deuxième impromptu, fa dièse majeur, beaucoup de bémols, la berceuse, les nocturnes en ré bémol majeur, les nocturnes en si majeur. Voilà, ce sont des tonalités où on se sent bien au piano, c'est très pianistique. Et Fauré écrit son premier nocturne avec si bémol à la clé, mi bémol mineur, et le deuxième en si majeur. Alors ce sont des œuvres qui font partie de cette jeunesse de Fauré où il a fait jouer avec succès sa première sonate en la majeur pour violon et piano, où il donne en 1881 sa magnifique ballade pour piano et puis piano et orchestre. Premier quatuor, opus 15 en do mineur, première barcarolle, première impromptu pour piano, beaucoup de mélodies, dont certaines très belles, les berceaux, après un rêve. Les poésies ne sont pas toujours très bien choisies. Par contre, contrairement à Debussy, qui fait preuve toujours de plus de goût et de clairvoyance que lui. Et puis, il est beaucoup avec Saint-Saëns dans des concerts. Il joue des œuvres à deux pianos, des transcriptions d'orchestre à deux pianos. Saint-Saëns, ne l'oublions pas, a été son professeur pendant plusieurs années à l'école Niedermeyer. Et Saint-Saëns, c'est un grand frère. Il a 10 ans de plus que lui. Et il développe, à partir de cet enseignement, une amitié qui jamais ne se tarira. Et même si les 10 années d'écart de Saint-Saëns ressemble à 20 ou 30 années d'écart au fur et à mesure que Saint-Saëns vieillit, c'est-à-dire comprend de moins en moins la musique de Fauré, même si elle lui échappe, cette amitié reste extrêmement forte et il se donne du « mon gros chat » et « mon bon Gabriel », etc. C'est quelque chose de très savoureux à lire, la correspondance de Saint-Saëns et de Fauré. Alors c'est toute cette époque où finalement Fauré conquiert Paris et conquiert aussi ces galons de magnifiques compositeurs, enfin, qui sort du lot, qui fait entendre une voix singulière, à la fois empreint d'un grand classicisme de par son éducation. Il ne faut pas oublier qu'à l'école Niedermeyer, il a connu toute la musique ancienne, hein, il joue de l'orgue, et puis des cours très rigoureux d'harmonie, de contrepoint, de fugue, de composition. Il joue du piano, il apprend tous les grands maîtres, évidemment. Il se confronte à tous les styles de musique. Il aime Schumann, il aime Chopin, il aime Mendelssohn. Et son premier quatuor, sa première sonate pour violon, s'en ressent, évidemment. Là, nous l'avons entendu avec le premier nocturne. L'influence de Chopin, elle est évidente. Yankelevitch parle de Tchaïkovski. Je doute qu'à cette époque-là, il ait connu tellement cette musique. Mais pourquoi pas, au demeurant. Là, vous allez entendre dans le deuxième nocturne une influence de Chopin et Schumann très forte. Thank you. Je viens de jouer le deuxième nocturne en si majeur, opus 33, de Gabriel Fauré. Une œuvre magnifique, voluptueuse, lyrique. Et puis alors, cette partie centrale qui commence presque comme du Schumann, hein, parce que ce qu'on entend ici... Moi, j'ai lu sous la plume de grands experts que c'est comme une toccata. Moi, je ne suis pas sûr que c'est une toccata. Il y a quand même un mouvement. Il y a des interprètes qui jouent ça même tout détaché. Alors, par opposition, bien sûr, à cette première page, extrêmement lyrique, mélodieuse, avec beaucoup de pédales, je peux comprendre, on peut imaginer ça avec très très peu de pédales. Moi, je pense que cette petite formule circulaire est inquiète. Alors qu'on joue avec moins de pédales, ça c'est tout à fait certain, mais ça vient des Buntblätter de Schumann. Hein. C'est tout à fait une formule schumannienne. Et alors on sent là vraiment l'attrait de Fauré pour cette musique. Et il en fait quelque chose d'extrêmement romantique. C'est une pièce qu'il faut jouer vraiment d'une manière lyrique, avec un grand geste. Évidemment, c'est une écriture très raffinée parce que quand arrivent alors les complications, c'est-à-dire... on a en fait le début de cette pseudo-toccata, juste la formule circulaire, avec des petits accents. Et pour expliquer comment c'est construit, ça, les spectateurs du Studio 105 me voient le jouer, vous avez la main droite qui joue seulement, et puis la main gauche, le bas et le haut. Ça, ce que vous entendez fort, c'est la main gauche. Donc, elle passe toujours sur la main droite. Et puis, beaucoup plus furieux, forté, avec cette fois des octaves. Et donc, après l'exposition de cette deuxième idée, vous avez un chant qui se greffe sur cet accompagnement, cette fois partagé entre la main gauche et la main droite. Donc, on entend en dessous. Et puis, le chant. Alors, l'accompagnement est écrit par Fauré pianissimo, et puis vous avez le chant... C'est-à-dire ce côté très lyrique, très galbé, très chopinien, sur cet accompagnement qui reste tourmenté malgré la nuance pianissimo. Mais il y a toujours les petits accents, si je les mets en évidence. Et donc, on doit tout de même essayer de les rendre perceptibles, même si ça va très vite, que c'est pianissimo, le chant est noté « dolce ». Espressivo, donc doux et expressif, mais on doit traduire cette inquiétude. C'est une tentative. Mais le feu brûle dans cette mélodie, hein. C'est pas du tout quelque chose de passif. Là aussi, très chopinien, hein, cette petite descente. Donc, essayez toujours de traduire par la main gauche, qui est comme ça, circulaire, et qui est toujours là, à tourner avec ses accents, pam, 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 et d'essayer de soutenir le chant en gardant ce côté fébrile, inquiet, pas stable. Je crois que ce serait une erreur de dissimuler trop les accents d'inquiétude de la main gauche. Et puis, vous avez cet immense crescendo centrale qui part de très très loin, et là, à nouveau, Fauré réutilise la formule du début, c'est-à-dire la main gauche qui passe sur la main droite, donc main gauche, et alors on part de très loin piano, il va y avoir ce crescendo jusqu'à l'apogée forte, fortissimo. que je suggère, c'est de ne pas le faire par palier, d'essayer de construire ce crescendo sur ces 6 mesures, ce sont des longues mesures, mais de ne pas reprendre en dessous. Ça fait grosse ficelle. Vraiment, on reprend son élan, et encore une fois, et encore une fois. Essayez de construire ça vraiment à la manière allemande dans l'idée de l'architecture. La longue ligne, c'est hérité de Jean-Sébastien Bach, mais aussi de Beethoven, bien sûr, et puis Schumann. On entend aussi un peu les Kreisleriana. C'est très proche, cette écriture. C'est une musique charnelle, encore une fois. C'est une musique sanguine. Il y a une énergie de tous les diables dans ce nocturne. Alors évidemment, si on joue ces crescendo avec autant de fureur, avec autant d'impétuosité, cela veut dire, à contrario, que toutes les pages mélodiques, lyriques, tendres, doivent être célébrées, évidemment. Alors ce qui est la beauté même dans ce nocturne, c'est ce balancement, c'est les accents qui sont retardés. Vous avez par exemple, dès le début, ici, qui sont à contretemps. C'est une mesure à 4 temps, andantino espressivo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, et encore, il accentue maintenant, il met même un accent sur la note. 1, 2, voilà. Et alors, il ne faut évidemment pas être démonstratif, il faut installer tout de suite ce balancement dès le début, avec ce merveilleux accompagnement, digne des beaux accompagnements de Chopin. C'est qui glisse en vous. Quel délice de jouer juste l'accompagnement. Alors quand on ajoute le chant, ça fond dans la bouche comme une glace à la framboise. C'est tellement merveilleux, cette phrase. Et on doit se laisser bercer par ce tempo. Moi, je ne joue pas ce nocturne très vite. Je l'entends en général jouer beaucoup plus allant, ce qui est possible. Mais je trouve que ça lui ôte ce côté nocturne dont on a besoin vraiment. Alors, on joue ça un petit peu allant. Ça fait un peu à la va comme je te pousse. Je trouve ça anodin. Je trouve que c'est... Alors c'est très joli, évidemment, c'est très très joli. On peut jouer avec la plus belle sonorité du monde à ce tempo, et je comprends tout à fait. Je peux admettre une réserve quant au tempo que je choisis, qui est plus contemplatif, plus rêveur, plus abandonné. Mais je profite des basses, j'essaie de fondre les sonorités et de faire goûter, de faire déguster ces merveilles. Enfin, quand on... Tous ces frottements... joue vite comme ça vient. On n'a pas du tout le temps. Alors ça fait un joli robinet et de l'eau de très bonne qualité, mais pour moi, ça n'est pas le jus, l'essence. Ça doit être fruité comme un jus de pêche. Et c'est tellement féminin. C'est tellement amoureux, ce chant, cette rêverie. Doucement son chemin, et la célébration aussi des intervalles. On a des intervalles très conjoints. Et puis... tierce, quarte, alors qu'on a souvent des intervalles conjoints. Alors, quand ça va vite, on note juste, mais ça ne raconte pas d'histoire pour moi. Pour moi, encore une fois. Et dans le même genre d'idée, je pense qu'on peut être très libre avec le tempo. Il ne faut pas jouer cette musique à la trique, enfin, cette fausse, cette mauvaise tradition française qui veut qu'on joue forêt, vraiment, d'une manière tout droite. Lui jouait... comme je vous l'ai fait entendre tout à l'heure, avec beaucoup de rectitude, mais il est très souple à l'intérieur de son tempo, parce que le toucher, parce que le dosage, l'équilibre entre les deux mains, l'écoute qu'il a de son chant, la manière dont il s'accompagne, c'est la souplesse même, la souplesse même. Et donc, quand on arrive sur ce passage totalement séraphique, on en revient à In Paradisum, on en revient au début du premier nocturne... c'est pas une rhapsodie de Liszt, hein, si on joue... C'est atroce, hein, il faut complètement suspendre le temps et laisser les choses retomber d'elles-mêmes, palier par palier. On est dans l'extrême aigu, on va passer au haut médium, puis au bas médium, puis il va y avoir l'apparition des basses, celle-là, et puis... hein, passe rien. Surtout pas brillant. Et cet arpège, ils sont quoi, complètement fondus. C'est une nuée, une poudre d'or. Surtout pas actif, mécanique, avec des doigts perdendosi, en se perdant. On peut presque mettre les doigts tout à fait à plat sur le piano. Et puis le baryton, rejoint par la soprano, et dans cette nuée de trilles, hein, le coup de théâtre, c'est que au lieu d'avoir ça uniquement dans... le bas aigu, c'est-à-dire on a vraiment deux sopranos cette fois, les unissons. Alors ça doit être d'une lumière étincelante et tendre en même temps. Et toujours cette suspension, cette syncope ici. Ici aussi, à contre-temps, elle remplit sa fonction expressive. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller vite. Si on va vite, alors déjà l'accompagnement, il est suffisamment délicat à jouer, à la main gauche. Et dès qu'on va jouer plus vite, on va provoquer de l'activité, de l'activisme. Alors du coup, c'est la course. Ça ne rend pas du tout justice à la beauté harmonique, aux résonances, aux vibrations qui s'échappent du piano si on joue ça plus vite. C'est mon idée, encore une fois, cet atelier, je l'ai déjà dit des milliers de fois, c'est une idée absolument subjective de la musique personnelle. Je ne prétends pas du tout avoir la vérité. C'est juste ce que j'imagine à partir de ce que la partition me donne à voir et à lire. Évidemment, ce deuxième nocturne de Fauré, il me fait inévitablement penser au grand chef-d'œuvre qu'est le nocturne en si majeur de l'opus 62, même tonalité, si majeur, le nocturne de Chopin. Et cette cantilène. Thank you. etc. Quelle splendide musique, enfin, c'était... Et ce que je trouve assez proche, c'est cette idée de glisser, de laisser la mélodie retomber, glisser, molto legato, et évidemment molto espressivo. On a toujours dans ce nocturne-là, toujours l'idée d'abandonner, comme ça. Il y a l'accent, il y a le souffle, le premier temps, et puis on laisse retomber. Premier temps, et on laisse l'énergie partir. Voilà, et ça c'est très très proche, me semble-t-il, de... Alors, je voudrais terminer cet atelier consacré au premier et deuxième nocturne de Fauré en vous faisant entendre un autre nocturne, le grand chef-d'œuvre du corpus des nocturnes de Fauré, c'est-à-dire le sixième de l'opus 63 en ré bémol majeur, encore un ton très bémolisé avec beaucoup de bémols, ré bémol majeur, beaucoup de touches noires, un ton chopinien entre tous, comme le son si majeur, mi bémol mineur, fa dièse majeur. Et alors, c'est un enregistrement que j'ai déjà fait entendre à une ou deux reprises au cours des dernières saisons, mais tellement essentiel, parce que c'est Fauré révélé dans toute sa dimension, le lyrisme, l'intimisme, la tendresse, le mouvement, la fluidité, le timbre. Un des plus beaux timbres du monde, un des pianistes qui le plus beau son qu'il puisse s'imaginer pour ce nocturne. Et c'est un enregistrement d'un pianiste qui jouait très très peu Fauré, je crois qu'il n'a joué que ça. Et peut-être à l'instigation de son grand ami Alfred Cortot, c'est possible. En tout cas, en 1945, sur les décombres d'une Allemagne ruinée, martyrisée par 12 années de nazisme, eh bien, ce pianiste, qui avait des sympathies pas très sympathiques, eh bien, joue ce nocturne comme un chant d'amour, un chant d'espoir, un chant de pardon peut-être, qu'il veut obtenir. C'est en mai 1945, c'est vous dire vraiment que c'est à une période tout à fait charnière de l'histoire de l'Allemagne, et il enregistre ça à Hambourg, ce pianiste qui rend justice, à mon sens, au sixième nocturne comme aucun autre, ni avant ni après lui, c'est Wilhelm Kempff. Il y avait une qualité d'écoute et d'émotion dans le studio 105 pendant que nous diffusions ce sixième nocturne de Forêt enregistré en mai 1945 en Allemagne par Wilhelm Kempff. Pour moi, une des plus belles preuves d'amour dans la musique et dans l'être humain que Wilhelm Kempff nous donne dans cette interprétation unique de ce sixième nocturne de Forêt. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter pour cet atelier consacré à Gabriel Fauré. Je voudrais remercier mon équipe aujourd'hui à la prise de son Jason Taus et Benoît Gaspard, à la sonorisation du studio 105 Julie Garraud, aux éclairages Sophie Pierre et Gérard Savary. Le piano a été accordé par Léo Duroy. Margot Lebaille m'a aidé à préparer cette émission que Marie Groux a réalisée. Un grand merci à vous, public du studio 105, et à la semaine prochaine.